Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo. La quasi quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au sommaire de ce 10 juin, dans votre pédalo, le Front National est aux portes du pouvoir après la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Radio Campus Angers s'engage et vous invite à vous rendre aux urnes les 30 juin et 7 juillet prochains. Mais si, pour commencer, nous parlions un peu d'Europe, le pari de Jordan Bardella est réussi. Partout, on ne parle que de la France. Alors, quel avenir en commun au sein de l'Union européenne? Comment analyser cette montée des extrêmes droites au sein du Parlement européen? Comment lire et faire entendre ces résultats? Malgré ce coup de tonnerre en France, eh bien, on en parle avec Jean-Marc Minier de la Maison de l'Europe et Albrecht Sonntag, professeur à l'ESCA et à l'origine de la chaire Intégration européenne. On aura également le plaisir d'entendre la chronique de Camille Fontaine, étudiante en master sciences politiques à l'Université catholique de l'Ouest, qui a travaillé toute l'année avec nous à décortiquer cette campagne pour les élections européennes. Allez, c'est parti, on est ensemble pendant 30 minutes. Mais avant tout ça, on accueille Victor pour le Flash Info. Salut Victor.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
L'extrême droite progresse de plus en plus en Europe donc.
Outre la victoire du Rassemblement National en France avec 31,7% des voix, les partis eurosceptiques se propagent de plus en plus, comme en Autriche avec le Parti de la Liberté arrivé en tête en doublant ses sièges au Parlement. Sans surprise, Giorgia Meloni, ouvertement raciste et homophobe lors de cette campagne, a obtenu la majorité en récoltant 28,8% des suffrages contre 34% en 2019.
Giorgia Meloni donc en Italie. Dimanche a marqué un véritable bouleversement politique en France.
Après l'annonce des résultats hier lors des élections européennes, le chef de l'État a répondu en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale. Une réunion est en train d'avoir lieu entre la France insoumise, les écologistes et le Parti communiste français à 16h. Afin de discuter d'une potentielle union. Le Parti Socialiste n'a quant à lui pas affirmé sa présence lors de cette réunion.
Rassemblement ce soir à 19h à Angers devant la préfecture.
Un rassemblement contre la montée de l'extrême droite au pouvoir est prévu ce soir. L'appel lancé durant la journée par des organisations de jeunesse avec le soutien de la CGT intervient dans le cadre de la dissolution de l'Assemblée nationale. Une décision qui risque de transformer le paysage politique français.
Comment le vote des élections a évolué à Angers depuis 2019?
Le Parti Socialiste de Raphaël Glucksmann est sorti vainqueur avec 21% de vote. Le Parti Renaissance de Valérie Ayer arrive en deuxième position à un peu moins de 18%, soit 10% de moins qu'en 2019. Le Rassemblement National en troisième position a connu une hausse de 3% avec 14% de suffrages exprimés.
Peut-être une bonne nouvelle dans ce flash, peut-être la seule, non, on parlera un peu de sport à la fin, mais la participation aux élections européennes, elle a continué d'augmenter, mais c'est pas encore gagné.
51%, c'est le nombre de citoyens européens ayant exprimé leur vote aux élections européennes. Nous assistons donc pour la deuxième fois consécutive à une hausse de la participation, une évolution qui se reflète en France puisque 51,4% des inscrits se sont rendus aux urnes, soit un de plus qu'en 2019, un chiffre qui reste tout de même bas puisque l'abstention y reste encore très élevée avec 48,6%.
Oui, 1% de plus qu'en 2019, pas un Français de plus. Hein.
Excusez-moi.
Et on se détend un peu, on parle de sport avec l'ouverture d'un club de foot à Angers qui travaille sur le social.
Le club de la Vaillante Sport, distancé de seulement 800 mètres d'Angers FC, vont fusionner pour porter un projet audacieux, accueillir un maximum de joueurs, de jeunes joueurs, au-delà du quartier Montplaisir où ils sont situés. Cette fusion devrait constituer l'effectif le plus important du district de Maine-et-Loire.
Et on finit en tennis avec la victoire de Carlos Alcaraz à Roland-Garros.
Hier soir, le joueur espagnol a renversé le joueur allemand Alexander Zverev 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 et 6-2. La finale retransmise sur France 2 a duré pas moins de 4h et 19 minutes, soit 23 minutes de moins que le record. Le successeur de Rafael Nadal se place désormais en deuxième position du classement ATP, derrière son homologue italien Jannik Sinner.
Alexander Zverev accusé de violence conjugale en plein pendant le tournoi. Mais bon, voilà, c'est Carlos Alcaraz qui a remporté. J'étais supporter de Carlos Alcaraz. Merci beaucoup, Victor, pour ton flash et à demain.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Pendant presque 10 mois, vous avez suivi avec Camille l'actu de l'Union européenne. On a parlé des lois européennes, on a parlé des partis européens. Bref, on a parlé d'Europe toute la saison. Et hier soir, on aurait dû parler d'Europe, des résultats européens, mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé, Camille.
Hier soir, on a eu le droit à 5 minutes de résultats européens. On a d'abord appris le score du Rassemblement national. Finalement, leur score est donc de 31%. Les sondages nous l'avaient pourtant prédit depuis plus de 6 mois. À gauche, je pense que l'espoir de ce score utopique planait toujours. Et ceci explique donc la sidération d'une grande partie des analystes et éditorialistes politiques hier soir. Dès 20h05, Jordan Bardella a parlé d'un président affaibli, rétréci au sein de ses moyens d'action, et il aura donc fallu attendre 5 minutes pour que les résultats soient eux aussi nationalisés. Pour lui, les résultats de ces élections annoncent la fin d'un cycle et obligent Emmanuel Macron à prendre acte de cette nouvelle donne politique. Les dirigeants du Rassemblement national avaient déjà prévenu l'exécutif du besoin de respecter la Constitution, et pendant la campagne, Marine Le Pen avait aussi demandé à Emmanuel Macron de démissionner. Ce que même le plus grand voyant n'aurait pu prédire, c'est que le président de la République acquiesce et réponde au Rassemblement national.
À 21h, le président a donc annoncé utiliser l'article 12 de la Constitution pour dissoudre l'Assemblée nationale, une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe en France et en Europe.
Alors que tous les autres pays européens étaient occupés par le déroulement de la soirée électorale, en France, on a observé un nouveau braquage des élections européennes. Emmanuel Macron nous a volé un des seuls moments où l'on parle du projet européen dans son ensemble. Durant toute la campagne, on nous a vendu un duel entre Renaissance et le RN. On y aura aussi eu le droit le 9 juin. Il est quand même très important de rappeler que les élections européennes ne sont pas censées avoir une incidence sur la politique et les institutions nationales. Il n'y a pas de cause à effet ici. Les élections européennes ont toujours favorisé les percées de l'extrême droite. Alors c'est pas pour ça qu'il faut les normaliser, mais ces élections, à la proportionnelle et à un tour, ne favorisent pas les votes utiles ou barrages que l'on pouvait observer pendant les élections nationales. Et c'est une donnée que le président a décidé d'ignorer. Valérie Pécresse, qui est présidente LR de la région Île-de-France, a dénoncé la décision du président. Pour elle, il joue à la roulette russe avec le pays. Je pense que le terme est bien utilisé. Dans moins d'un mois, la France pourrait se retrouver dirigée avec comme Premier ministre Jordan Bardella.
Et on va finir par la grande oubliée de la soirée, l'Union européenne. Qu'en est-il des résultats européens? Le Parlement européen va-t-il être dirigé par des partis d'extrême droite, Camille?
C'est quand même la bonne nouvelle, entre guillemets, d'hier soir. La coalition entre les partis du PPE, de Renew et des sociodémocrates tient encore. Alors bien sûr, on ne peut pas ignorer les résultats du parti Identité et Démocratie et des conservateurs réformistes, mais en tout, les deux partis n'ont pas gagné plus de 20 sièges. Les grands perdants de ces élections, c'est Renew. Le parti européen à la vision macroniste a perdu 23 sièges par rapport à la dernière mandature, suivi de près par les Verts qui suit une grande défaite avec une perte de 19 sièges. Alors la coalition tient, mais il faut garder en tête que le PPE est aussi en train de s'endurcir sur les questions de migration, sur les questions environnementales notamment. Bon nombre de leurs députés seraient plus susceptibles de se rapprocher des rangs des conservateurs réformistes sur certains votes.
Merci beaucoup Camille pour ces explications et pour nous avoir parlé d'Europe toute la saison. On continue à parler d'Europe évidemment sur les ondes de Radio Campus Angers toute cette semaine, la semaine prochaine. Enfin, on continue à parler d'Europe.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Et on continue à parler d'Europe avec Jean-Marc Minier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de la Maison de l'Europe à Angers et à nos côtés, Albrecht Sonntag. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'ESCA et à l'origine de la chaire Intégration Européenne, depuis renommée UE Asia Institute. On va parler d'Europe, je vous le promets. Mais j'aimerais d'abord entendre votre réaction suite à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Jean-Marc Minier.
Eh bien, vous savez que c'est une spécificité française de nationaliser toutes les élections européennes. C'est pas nouveau. Et d'ailleurs, les trois dernières élections européennes ont fait l'objet d'une réponse non pas aux questions européennes, mais au président de la République en place, puisqu'en gros, c'est transformé en référendum contre le pouvoir en place. Alors là, ça a pris des proportions un peu plus importantes, comme Camille nous l'a décrit. Et d'aucuns ont crains que les sondages ne, ou espérer que les sondages ne se trompent. Malheureusement, pour une fois, ils étaient au rendez-vous. Et donc, ce qui était annoncé est arrivé. La surprise, vous l'avez dit, c'est que le président de la République en tire des conséquences tout à fait inattendues, y compris pour son propre camp.
Albrecht Sonntag.
Oui, alors je suis en principe bien entendu d'accord avec mon ami Jean-Marc, mais je me demande aussi si c'est vraiment si choquant que cela de voir un lien entre les élections européennes et la situation nationale. L'Europe, la politique européenne et la politique nationale se percutent tout au long de l'année. Je veux dire, toute élection européenne a forcément un impact sur le plan national, ne serait-ce que comme polaroïde des humeurs et ambitions actuelles, mais aussi toute élection nationale a forcément un impact sur la conduite de l'Union européenne. Si un pays change de tête de gouvernement, eh bien c'est ce tête de gouvernement qui se retrouve dans le Conseil. Donc je suis un peu moins choqué. La politique européenne est davantage présente aujourd'hui dans nos vies quotidiennes sur le plan national et l'inverse est sans doute vrai aussi. Donc c'est un peu inévitable aussi qu'on tire un certain nombre de conclusion.
Mais vous n'avez pas l'impression que Emmanuel Macron, par cette décision, a privé les Français et bon nombre de citoyens européens de parler d'Europe et de débattre de l'Europe? On n'a pas entendu parler du pacte vert, par exemple, hier soir. On a très peu entendu parler des décisions et des incidences que ces résultats allaient avoir sur la politique et sur le Parlement européen.
Alors, c'est vrai que ça occulte, c'est clair. Émotionnellement parlant, ça occulte complètement la discussion pendant une soirée électorale. N'empêche qu'on avait plusieurs semaines, voire des mois, pour entendre tout le mal que pensent certains du pacte vert. Ça, il en était quand même question. Non, on peut. Je comprends parfaitement bien la critique qu'on peut formuler à la manière dont s'est déroulée la soirée hier, mais on peut aussi retourner l'argumentation et dire en prenant autant au sérieux une expression de vote lors d'élections européennes traditionnellement considéré comme un peu secondaire, eh bien, il rehausse aussi l'importance de ces élections dans l'esprit des citoyens. On peut argumenter de manière différente, je pense.
Élections qui ont d'ailleurs été prises au sérieux par les Françaises et les Français, puisque le taux de participation est en hausse légèrement, mais en hausse quand même, Jean-Marc Minier.
Tout à fait, même supérieur aux dernières élections nationales.
C'est ça, les élections législatives, il y avait moins de participation.
Certes, dans un contexte un peu particulier de crise du Covid pour les municipales, mais si on regarde les législatives, on a eu un taux d'abstention record. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle que les Français se soient mobilisés pour ces élections européennes. Et je dois dire que les 38 maisons de l'Europe, très modestement, y ont probablement contribué.
Et évidemment, Camille, sur les ondes de Radio Campus Angers, et tous les étudiants et étudiantes qui ont fait vivre ces élections européennes sur les ondes de campus.
Bien entendu.
En Europe, on attendait une vague brune. Elle était redoutée, elle était attendue. Comment analysez-vous cette montée des nationalistes au Parlement européen? Cette vague brune a-t-elle finalement eu lieu? Albrecht Sonntag.
Alors, c'est un terme que je n'utiliserai pas. Ça me paraît un peu trop facile de renvoyer toujours au passé nazi en utilisant l'adjectif brun. La couleur brun-brune. Il est vrai que c'est inquiétant, ça fait pas plaisir, d'autant plus que ces partis qui se situent sur l'extrême droite de l'échiquier politique européen n'apportent absolument rien de constructif. C'est évident, que ça soit sur les thèmes délicats du genre droit d'asile ou environnement, ou alors sur des thèmes plus bateaux. Ils sont là sans être là, et ils font du bruit, un bruit de fond. et leur impact le plus nocif est sans doute sur le vocabulaire qui est utilisé, le discours qui s'incruste, et la droite, comme votre chroniqueuse Camille l'a bien souligné, la droite, en principe modérée, se démodérise. En fait, elle adopte un certain nombre de paroles qui viennent de l'extrême, et la frontière devient beaucoup plus perméable entre les deux. Et c'est là-dessus que leur nocivité est la plus forte.
Jean-Marc Minier, comme Camille le disait, il y a eu simplement entre 15 et 20 sièges qui vont être rajoutés si on additionne les scores des deux partis ECR et ID. Est-ce que cette vague bleu marine, pour ne pas utiliser l'adjectif brun, comment analysez-vous finalement le fait que c'est peut-être moins fort qu'attendu, avec des conséquences qui sont plus fortes qu'attendues, en tout cas au niveau national?
Alors, il faut d'abord remarquer que les plus virulents parmi les partis d'extrême droite, je pense à l'AfD en Allemagne, eu égard aux excès de leur tête de liste et à la aux difficultés que certains de leurs attachés parlementaires ont avec la justice vis-à-vis de la Chine ou de la Russie, ils ont été aussitôt exclus d'identité et démocratie. Le jeu va se jouer maintenant dans la capacité ou non, et c'est peu probable, de ces deux partis à s'entendre, alors que beaucoup les séparent, et en particulier les questions géopolitiques, le soutien à l'Ukraine. Certains sont pro-russes, d'autres sont atlantistes. Donc, si vous voulez, la menace est pas si importante que ce qu'on pourrait craindre, parce que il y a fort peu de raisons, ou de chances, ou de risques, que ces deux partis ne constituent, enfin, que ces deux groupes n'en constituent qu'un. Viktor Orban, qui était, après s'être fait sorti du PPE, dans les non-inscrits, va tenter de rejoindre l'un ou l'autre groupe, mais il est éloigné des conservateurs et réformistes parce que il est pro-russe, alors que en moyenne, ce parti ne l'est pas. Marine Le Pen, finalement, domine identité et démocratie, mais elle est un peu seule, j'allais dire. Donc, si vous voulez, je crois que la tendance, c'est ce qu'on a évoqué, c'est une droitisation du Parlement, et probablement, outre la capacité à nuire ou à empêcher certaines décisions, des alliances ponctuelles entre les conservateurs du PPE et probablement plus les réformateurs qu'avec ID.
Du côté du PPE, le parti de droite au Parlement européen, d'Ursula von der Leyen, lui, il sort renforcé de ces élections. Le PPE gagne à peu près 10 sièges par rapport à 2019 et reste la première force politique du Parlement européen.
Il les gagne notamment grâce au pays le plus peuplé, donc qui pourvoit le plus grand nombre de sièges, c'est-à-dire l'Allemagne, et il les gagne parce qu'il n'a pas été aux commandes du pays depuis le départ de Angela Merkel, ce qui veut dire qu'en Allemagne aussi, le vote est un vote de sanction contre le gouvernement en place, et ça a fait, en l'occurrence, le bonheur d'un parti installé depuis très longtemps parmi la droite modérée, et qui, quand il fait un gain en pourcentage, apporte beaucoup de sièges par l'automatisme de la proportionnalité démographique.
Est-ce que cette coalition qui existait jusque-là entre le SPD, le PPE et Renew va persister?
Ces trois groupes ont quand même en commun un certain nombre de visions sur les projets européens, et donc je pense qu'ils auront à cœur de maintenir leur coalition. La première échéance, ça va être l'élection de la présidente ou du président de la commission, qui, comme vous le savez, doit être proposé par le Conseil européen, qui va se réunir les 27 et 28 juin prochains, et donc proposer le candidat. Traditionnellement, on propose le candidat du parti qui est arrivé en tête, donc Ursula von der Leyen étant à nouveau candidate à sa propre succession. On verra si les 403 élus des trois groupes font cause commune pour élire cette présidente, en rappelant que même la dernière fois, en 2019, elle avait été élue à quelques voix près.
Albrecht Sonntag, comment est-ce que vous analysez, vous, la recomposition de ce Parlement européen, et est-ce qu'il y a vraiment des choses qui vont évoluer drastiquement après ces résultats ?
Alors, il est toujours difficile de prédire l'avenir, n'est-ce pas ? Il y aura un nouveau modus vivendi au Parlement. Il va falloir que tout le monde prenne son siège, commence à voir comment ça se passe, que les coalitions se forment, et je rejoins Jean-Marc quand il dit que les 403 issus des trois partis plutôt au centre n'ont pas d'autre choix que de s'entendre s'ils veulent, et c'est ce qu'ils prétendent vouloir, que l'intégration européenne se poursuive, hein, malgré les tentatives de perturbation de l'extrême droite qui vont se faire sentir. Là où on aura sans doute le plus vite et le plus drastiquement des changements d'orientation, ça risque d'être le volet environnement. Il y a comme un mauvais consensus irrationnel qui s'est emparé de la quasi-totalité de l'échiquier politique, comme quoi on serait allé trop loin. Je présume que vous en avez parlé pendant l'année déjà. On sent venir ce mauvais vent anti-écologique. Les écologistes eux-mêmes, étant considérablement réduits.
Ils ont perdu à peu près 18 sièges à peu près en moins pour les Verts par rapport à 2019.
Ils doivent être autour de 52 maintenant, et donc ils seront beaucoup, beaucoup moins faciles à entendre, à prendre du temps de parole aussi. Hein, tout ça va jouer. Donc c'est là-dessus que je vois le premier impact direct. Et comme Jean-Marc Minier l'a bien souligné, le choix qui sera fait de la ou du président de la commission à venir et le premier spillover, je dirais, de ces élections européennes sur les autres grandes institutions en place, c'est-à-dire la commission, mais le conseil sera touché aussi, puisqu'on aura on a des élections dans pas mal de pays. On n'est pas à l'abri, y compris en France malheureusement, on n'est pas à l'abri d'un changement de gouvernement, et donc le conseil peut aussi assez vite changer de composition. Donc c'est quelque chose qui est marqué, la mandature qui s'ouvre, les 5 années qui viennent seront, à mon avis, marquées par une plus grande instabilité et une plus grande incertitude. Ceci dit, si je peux terminer là-dessus, on n'a aucune idée quelle autre crise gigantesque et inattendue nous tombera dessus. Il est possible aussi que très rapidement, on en appelle à l'Europe pour résoudre une crise que nous n'imaginons même pas encore au moment où on parle.
Peut-être deux questions pour conclure que j'aimerais vous poser conjointement. Deux mesures phares qui ont été au cœur des élections de ce Parlement européen, de ces élections européennes. Jean-Marc Minier, au vu des résultats, comment analysez-vous la position de l'Union européenne sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine ? Et quelles orientations pourrait prendre l'Europe dans ce conflit ?
Alors, la caractéristique de la position européenne, c'est qu'elle a été quasi unanime et très vite prise, avec quelques anicroches qui perdurent malheureusement de la part de Viktor Orban, mais c'est vraiment le seul empêcheur de soutenir l'Ukraine. Et tout récemment, il a mis son veto au soutien financier pour acheter des armements. Mais globalement, là-dessus, il y a quand même un consensus assez fort entre les États membres et au sein du Parlement européen, et même, je vous le disais tout à l'heure, entre les nationaux populistes, il y en a quand même une part très importante qui entend bien soutenir l'Ukraine.
Albrecht Sonntag, pareil, même question, mais sur le pacte vert. Quel avenir pour le pacte vert à la suite des résultats de ces élections? On en a un tout petit peu parlé. Est-ce que vous pensez que le pacte vert pourra voir le jour, exister?
Alors, ça c'est la grande question. Je l'ai déjà mentionné il y a quelques minutes. Que deviendra la politique environnementale dans la nouvelle configuration du Parlement européen? Mais j'ai pas envie de dédramatiser bêtement, mais j'ai quand même aussi une confiance en la rationalité des personnes élues. Alors, le Parlement européen est une belle machine à produire des compromis. Il l'a prouvé beaucoup. C'est aussi une machine à socialiser des individus qui arrivent avec des idées toutes faites et qui doivent nuancer au fur et à mesure. Et croyez-moi, il est très difficile d'être tout le temps du côté du non, de l'objection, du blocage. Pendant 5 ans, c'est assez difficile aussi. Donc, je pense qu'il y a quelque chose dans l'inertie des institutions dont Jean Monnet se faisait l'éloge. Il y a quelque chose là-dedans qui va faire que la politique environnementale va pas s'arrêter net du jour au lendemain. Il y a un travail à faire, à convaincre, à en sauvegarder l'essentiel, qu'il faille prendre en considération des protestations massives dans un grand nombre de pays très différents comme les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, la Pologne, de la part des cultivateurs partout. Ça aussi, ça va de soi. Hein. La démocratie, et le Parlement est démocratique, la démocratie c'est aussi le pluralisme, c'est-à-dire la prise en compte des idées et de revendications divergentes. Hein. Trouver le compromis, c'est le job du Parlement. Tous les 5 ans, il se reconfigure et tous les 5 ans, il apprend à les faire à nouveau.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Jean-Marc Minier et Albrecht Sonntag d'être venus ce soir au micro de Radio Campus Angers pour parler d'Europe. Je suis fier que nous ayons pu proposer ce contenu ce soir à l'heure où l'Europe a été complètement invisibilisée en France, malheureusement, hein, au vu de l'actualité évidemment. Jean-Marc Minier, président de la Maison de l'Europe, et Albrecht Sonntag, donc professeur à l'ESCA et membre et à l'origine de la chaire Intégration Européenne renommée UE Asia Institute. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés au micro de Radio Campus Angers.
Avec plaisir.
Bonsoir.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Et on termine le sous-marin avec Thomas. Salut Thomas.
Salut Hugo, excuse-moi, je n'avais pas de micro.
On va changer complètement de sujet pour ta chronique. On va se détendre un peu, pas tellement finalement, puisque le sujet est quand même important. Mais tu vas nous parler du débarquement ce soir, mais pas n'importe lequel de débarquement. Débarquement.
Eh oui, tout à fait mon cher Hugo. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le débarquement. Mais alors, quel débarquement?
Oui, alors quel débarquement?
Eh bien, si tout le monde connaît l'histoire du débarquement de Normandie le 6 juin 1944 dans les plages du Cotentin et de la Manche, nous avons souvent tendance à oublier le débarquement du 15 août 1944 en Provence, surnommé l'opération Dragoon. Un débarquement qui, s'il est bien moins célèbre que son homologue de juin, est tout aussi décisif. En effet, ce ne sont pas moins de 2000 bâtiments de guerre et près de 40 000 soldats qui débarquèrent le 15 août 1944 sur les plages de Provence entre Toulon et Cannes. Pour l'occasion, 4 secteurs bien définis avaient été établis par les forces alliées: Roméo, Alpha, Delta et Camel. Tout comme en Normandie, ces différents secteurs devaient permettre à chaque armée et division de prendre d'assaut les différentes positions allemandes sur la côte, afin de les neutraliser et de permettre de débarquer le reste des troupes. Des troupes en grande majorité françaises d'ailleurs. Et oui, si le débarquement de Normandie lui a regroupé dans sa grande majorité des soldats américains, britanniques ou encore canadiens, le débarquement de Provence, lui, est constitué à près de 50% de soldats français. Alors, ceux-ci sont issus des brigades françaises d'Afrique noire ou encore d'Afrique du Nord, mais comptent aussi quelques régiments de résistants ou encore de soldats français de Corse. La Corse d'ailleurs, territoire français libéré dès la fin 1943, et petite question et petit aparté, par qui à ton avis Hugo?
Qui a libéré la Corse en 1943? Je n'en ai aucune idée.
Eh bien, aussi étonnant que cela puisse paraître, ce sont les Italiens. Et oui, en partie, le général, excusez-moi pour la prononciation, Giovanni Magli, avec 80 000 Italiens sous ses ordres, qui, après l'accord passé entre l'état-major allié et l'état-major italien, a décidé de se rallier aux résistants corses avec ses 80 000 hommes et de considérer les Allemands comme ennemis. Petit aparté fait, tout cela pour rappeler l'importance des effectifs français lors de ce débarquement. Des soldats qui seront d'ailleurs bien accompagnés par les FFI, les forces françaises de l'intérieur, à leur arrivée. Une aide majeure pour les alliés qui s'emparent rapidement de la ville de Toulon ou Marseille par exemple. Un véritable succès pour les alliés qui se traduit par l'avancée fulgurante des troupes battant toutes les estimations. On pourra notamment citer les libérations de Gap le 19 août, le 20 Grenoble, le 22 Toulon, le 29 Marseille et le 3 septembre Lyon. Une avancée si rapide qui devait permettre aux alliés d'encercler les forces allemandes en France à Dijon, reliant les forces de Normandie et de Provence. Eh bien, ce sera chose faite le 12 septembre, soit plusieurs semaines avant la date prévue initialement par le commandement allié.
Un véritable succès donc sur tous les points, Thomas, pour ce débarquement.
Oui, un succès français que le général de Gaulle n'arrêtera pas de qualifier comme vrai débarquement français. Et c'est peut-être là le paradoxe français de la mémoire de ces débarquements. C'est que dans l'imaginaire collectif commun, on se souvient plus du premier débarquement de Normandie où les forces françaises étaient en très grande minorité que celui de Provence. Alors cela est dû aussi aux nombreux films, jeux vidéo de la pop culture américaine qui mettent beaucoup en avant ce débarquement de Normandie.
Et assez logiquement parce qu'en fait c'est l'événement qui parle le plus aux Américains, évidemment, ces soldats en Normandie.
Oui, tout à fait. C'est pour cela que je vous invite à vous renseigner un peu plus sur le sujet si j'ai réussi à titiller votre curiosité, car tout comme celui de Normandie, eh bien cette année 2024 marquera aussi les 80 ans du débarquement français, si je puis le dire, pour la libération du pays en 1944.
Libération du pays qui a engendré la création de l'Union européenne.
Bien sûr.
Merci beaucoup Thomas pour cette chronique et à dans deux semaines. Et le pédalo termine sa traversée sur les ondes de campus. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Demain, on parle musique pour surmonter le moral. Mais à très bientôt sur le 103 FM. On parlera évidemment de toute l'actualité en France et en Europe sur les ondes de campus. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.